Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout à l'heure après l'émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, on a encore un invité qui vient des Pyrénées-Atlantiques. On va parler du BTS audiovisuel de Biarritz. Nous avons Laurent Verdier qui est enseignant dans cette formation, qui est venu nous présenter ce BTS. Alors on dit, tiens, c'est étonnant, mais vous allez voir, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il a un rayonnement qui dépasse de bien loin nos départements, parce que voilà, il est très réputé, et on a la chance d'avoir quelqu'un pour le présenter aujourd'hui. Bonjour Laurent, comment ça va ?
Bonjour Jean-Philippe, ça va très bien, et merci de m'accueillir ici.
Voilà, on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir notre invité, et puis ce BTS, hein, tout ce qui se passe, parce que on est quoi ? On est bientôt en juin, hein, peut-être qu'il y a des décisions qui sont déjà prises ou à prendre, voilà, vous connaissez ce rythme, hein, de Parcoursup. On va écouter d'abord le flash info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti. Alors Laurent, la tradition ici au début des émissions, on aime bien avoir une petite idée de la trajectoire personnelle des invités, savoir un petit peu le chemin qu'ils ont parcouru dans leur existence, les différents métiers qu'ils ont fait éventuellement et qui font qu'aujourd'hui ils sont à ce micro, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice.
Tout à fait. Donc voilà, moi je suis enseignant depuis très très longtemps, c'est-à-dire j'ai commencé en tant qu'enseignant de physique, j'étais sur sur Pau en fait, au lycée Saint-Cricq où j'enseignais les sciences physiques.
Le fameux
Saint-Cricq, oui. Le fameux Saint-Cricq où j'enseignais donc les sciences physiques ainsi que l'informatique. Comme je suis assez curieux et j'aime bien faire de nouvelles choses aussi, pendant un certain temps ensuite, je me suis mis à l'allemand et j'ai enseigné les sciences physiques en allemand. Bon, à avoir des difficultés, autant les avoir aussi en langue. Donc, oui. Ceci dit, ça nous a permis de mettre en place une formation très très intéressante où on a amené des jeunes partout à travers l'Europe. On les a même fait participer à des concours, des projets, donc des projets internationaux sur la recherche sur le climat, des concours de robotique où ils ont pu atteindre le sommet, c'est-à-dire qu'on en a eu qui ont été champions du monde, double champion du monde en Thaïlande.
Oui, c'était sympa ça.
Ouais, c'était sympa, oui. Ouais. On les accompagnait, c'était vraiment, puis bon, c'était une ambiance très très particulière, là, du moins l'ambiance projet. Et donc beaucoup de projets comme ça, donc linguistiques, scientifiques, et ensuite, je ne veux pas dire naturellement, mais j'ai été recruté par l'agence Erasmus, sachant que justement je faisais pas mal de ces projets, et qui justement avait des besoins de développement au niveau des BTS sur les mobilités des étudiants, et j'y ai travaillé pendant 3 ans, où j'ai travaillé au niveau français avec beaucoup d'établissements, l'inspection générale, pour pouvoir développer ces mobilités. Et au bout de 3 ans, je suis revenu dans l'enseignement et j'avais eu encore une fois envie de faire quelque chose de différent. Et on m'a proposé, de par mon expérience, de travailler en projet, de venir au BTS audiovisuel à Biarritz. Et c'est là où j'ai découvert ce nouveau monde, l'audiovisuel, avec les étudiants qui sont super. Bon, on parlera peut-être du recrutement. Vous avez parlé tout à l'heure de Parcoursup.
Oui, évidemment.
Voilà. Ouais. Et c'est la deuxième année où je travaille dans ce BTS, où j'ai relancé, bien sûr, des projets internationaux. On parlera peut-être des mobilités.
Bien sûr, ouais.
De nos étudiants à travers l'Europe qui vont commencer très, très prochainement.
Ouais, très bien. Ouais, alors, ces histoires de mobilité en Europe, etc., comme les auditeurs le savent, on est en partenariat avec WIPSI, la Maison de l'Europe des Landes à Pontonx. On a régulièrement des émissions avec eux, des invités qui travaillent avec eux. On a les jeunes qui font les podcasts, etc. Puis on parle souvent de mobilité, d'Erasmus, etc. Ça fait partie un peu de nos classiques maintenant à la radio. Alors, ce fameux BTS, je ne sais pas combien il en existe en France. Comme ça. Bon, il a l'avantage en tout cas d'être public.
Voilà, tout à fait, c'est un BTS public, c'est un des plus vieux BTS en France. Tout simplement, ce week-end, on a fêté les 40 ans de ce BTS, avait carrément privatisé la patinoire d'Anglette.
Ouais.
Parce qu'en fait, il fallait pouvoir accueillir plus de 500 personnes, on en a accueilli 560, donc de toutes les promotions qui sont venues, dont certains qui étaient maintenant très proches de la retraite. Mais bon, ça nous permettait de créer du lien entre les nouveaux, les jeunes. Et c'est un BTS, effectivement, qui, sachant que c'était un des premiers BTS audiovisuels en France, qui est très, très connu et qui a laissé son empreinte, effectivement.
Oui, ouais, c'est vrai, c'était les 40 ans. C'est pas mal, hein, quand même. Alors, ce BTS-là, alors, des fois, les gens sont étonnés parce que, comment dire, il est rattaché au lycée René Cassin de Bayonne, qui est un grand lycée. Hein, mais il est à Biarritz, en fait, donc physiquement, il n'est pas du tout, il ne fait pas partie de, il n'est pas enclavé dans le lycée à Bayonne, il est à Biarritz, tout contre la médiathèque, en gros.
C'est ça. Alors, en fait, c'est une longue histoire. Il a été créé, effectivement, donc, rattaché au lycée à Bayonne, à Cassin. Et en fait, bon, quand ils l'ont créé au début, il n'y avait pas obligatoirement tous les locaux et choses comme ça. Et c'est vrai qu'on discute avec les anciens étudiants, ils ont quand même des souvenirs assez mémorables où, par exemple, les box de montage, c'est-à-dire les stations de montage, avaient été installées dans les anciennes cabines de douche de l'internat. Et tout avait été fait, avait été fait d'une manière, après, bon, voilà, je ne vais pas dire rocambolesque, mais c'était assez amusant. Et ensuite, quand la formation a pris forme et quand il a fallu pérenniser donc cette formation, il a été décidé de la mettre sur Biarritz où en fait il y avait un pôle audiovisuel parce qu'il y a aussi un BTS photo à Biarritz. C'est-à-dire qu'administrativement, la formation est rattachée toujours au lycée de Bayonne, et d'ailleurs les anciens disent toujours qu'ils viennent du BTS de Bayonne, mais elle est maintenant, donc on a la grande chance d'avoir un bâtiment dédié qui est organisé comme un studio télé, qui est à Biarritz, à côté de la médiathèque, pas très loin de la plage.
Oui, c'est vrai que ça change un petit peu des BTS habituels, où en général les étudiants se retrouvent à cohabiter avec les lycéens, hein, voilà, ou plus, même si c'est des cités scolaires, voilà. Tandis que là, c'est vrai que c'est un bâtiment à part, où il n'y a que les étudiants du BTS qui se retrouve dans cet espace-là. Il est dédié à ce BTS.
C'est effectivement à part, oui. Alors, c'est à part aussi quand même pour les enseignants. Quand on arrive, c'est à part en termes d'organisation. C'est-à-dire que le bâtiment est ouvert de 7h du matin à 7h du soir. Les jeunes peuvent venir, ont accès à tout le matériel. C'est du matériel professionnel. Hein. Donc, ils peuvent venir faire des montages, participer à des concours. Ils viennent aussi parce qu'il y a un CDI. Il n'y a pas de sonnerie aussi. Par exemple, quand on est enseignant, on est habitué à régler ses cours par rapport à une sonnerie.
C'est vrai, c'est pavlovien, je dirais même.
Là, voilà, exactement. Oui, où les élèves rangent parce que ça sonne. Ben là, pas du tout. C'est nous qui décidons en tant qu'enseignants quand est-ce que les élèves rangent. Ils nous attendent dans la salle parce qu'en fait, tout le monde rentre dans ce fonctionnement où il y a vraiment une organisation qui est totalement différente par rapport justement aux autres BTS. Moi, j'étais en BTS aussi avant, qui sont dans des établissements. Déjà, la première chose qui est assez surprenante, c'est que tout le monde se tutoie, élèves, profs, tout le monde se tutoie. Mais ceci dit, ça ne change rien au fait que tout le monde se respecte et ça fonctionne très bien.
Oui, donc il y a une grande autonomie du coup pour les étudiants.
Oui, une grande autonomie, c'est-à-dire que même si on reste quand même dans un système scolaire, on prépare quand même un examen, une grande autonomie en termes d'organisation, en termes aussi d'accès au matériel, c'est-à-dire que dès le début, ils apprennent à être autonomes par rapport à la gestion du matériel. Ils disposent même d'une association qui achète du matériel avec lequel ils peuvent faire des captations le week-end, ils participent à des concours même, il y en a qui ont gagné des concours de court-métrage. On les prépare finalement, c'est vraiment une formation au niveau professionnel qui les prépare bien, parce qu'au bout de 2 ans, ils sont vraiment autonomes en termes de matériel et d'organisation.
C'est une chance de pouvoir accéder à ce matériel vraiment pro, parce que que ce soit en termes de logistique et de finances, c'est impossible pour le commun des mortels quand même. Moi, je sais que j'ai déjà eu la chance de voir les portes ouvertes. J'ai déjà vu des jolis écrans calibrés pour les couleurs et tout. J'ai dit, oh, il est joli, mais je sais qu'il vaut 3000 ou 4000 euros. J'ai dit, oula, Eh oui, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir chez soi.
C'est le problème de ce BTS. C'est-à-dire que mon autre, c'est une formation professionnelle. Donc, il faut que les jeunes soient formés sur une matière professionnelle qui vont retrouver ensuite à l'entreprise ou en stage. Et c'est une matière qui est extrêmement onéreuse, effectivement. En écran, il doit avoir un rendu couleur quand même qui est très bon. Au niveau de l'infrastructure réseau, quand on fait du streaming, quand on fait de l'enregistrement, quand on branche des caméras, il faut vraiment qu'il y ait un très très fort débit, qui est du stockage aussi, parce que on enregistre en haute qualité, donc en ultra définition par moment, donc ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de stockage, ce qui fait qu'effectivement c'est très très onéreux, et ça c'est le problème. On est un BTS public, donc on dépend de la région, on est financé par la région, on est financé par la taxe d'apprentissage, et c'est vrai que c'est un peu la course à chaque fois pour pouvoir renouveler le matériel. C'est vrai que c'est un peu la difficulté de ce BTS.
Alors, dans les arguments qui peut-être vous aider à avoir des financements, c'est vrai que quand on connaît un petit peu le monde de l'audiovisuel ou du cinéma en France, etc., on connaît un petit peu la notoriété des différentes formations. Et je sais que, moi je connais des gens de Paris. Attention, des gens de Paris, du Nord, qui connaissent, qui disent « Ah ouais, le BTS, y en a certains qui voudraient le faire, etc. » Parce qu'il y a énormément de candidatures. En gros, on est à 2000 candidatures par an, c'est ça ?
En gros, c'est ça. C'est-à-dire que 48 places, c'est-à-dire, on pourra parler peut-être un peu plus en détail des formations ultérieures. Hein. Ouais. Donc, on a 48 places et on a à peu près 2000 candidatures pour ces 48 places. C'est des très bonnes candidatures, c'est-à-dire que là, je m'en viens de faire les sélections par Coursup. Alors, bon, je ne sais pas, les étudiants, peut-être qu'ils n'ont pas eu encore les résultats. Et c'est vrai qu'on a de très bons dossiers, on a de la France entière, on a qui viennent d'Alsace, du Nord, de Bretagne, Sud-Est, on a aussi des locaux, sachant que sur Bayonne, on a aussi quand même une option, sur le lycée, une option audiovisuelle.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est une BTS qui est très réputée. Moi, je vois l'année dernière, justement, quand je suis arrivé dans cet établissement, j'ai demandé à faire de l'immersion à l'entreprise pour vraiment m'imprégner de cette culture. Et j'ai passé une semaine au groupe France Télévisions à Paris, où j'étais avec les Bayonnais. Il y a vraiment une culture de ce BTS sur, par exemple sur France Télévisions, mais dans d'autres chaînes, il y en a qui sont la Canal+, il y en a un peu partout. Il a une solide réputation, bien entendu. Ouais.
Oui. Bon, on va faire déjà une petite pause. On va écouter un petit morceau de musique, un petit peu contextualisé d'ailleurs. Hein. Et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Laurent Verdi qui nous présente le BTS audiovisuel, le Biarritz. Alors on a écouté Video Kills the Radio Star. Non, c'est pas vrai parce que regardez, je suis encore là. Et l'anecdote, j'aime bien dire à chaque fois. Et oui, les Buggles, le clavier, c'est ce fameux monsieur Hans Zimmer qui donc lui, effectivement, il travaille dans l'audiovisuel, plus dans l'audio que dans le visuel, mais un très très grand compositeur de musique, de films dorénavant. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce BTS, hein? On va dire un petit peu le nom des formations, puis on va dire qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que le commun des mortels ne connaît pas les termes techniques des fois, c'est normal.
Alors justement, ça mérite d'être précisé effectivement parce que c'est un BTS audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options dans ce BTS, mais toutes quand même ont un tronc commun qui est l'audiovisuel, c'est-à-dire l'audiovisuel c'est quoi ? C'est la télévision, quoi. Jusqu'à maintenant, c'est la télévision, parce que ça aussi, on peut en parler. Il y a quand même des évolutions qui sont en cours avec les nouvelles générations. Parce que moi, justement, quand j'étais à France Télévisions, dont je parlais tout à l'heure, ils disaient aussi, bon, maintenant, on sait que les jeunes, la génération jusqu'à 30 ans, ils ratent plus trop la télévision. Ils sont plutôt sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, et des choses comme ça.
C'est sûr.
Et c'est vrai que là aussi, ça va entraîner des mutations en termes de formation et en termes de, même sur les grandes chaînes. Hein, c'est pour eux, c'est des questions qui se posent. Hein. Et donc, que fait-on dans ce BTS audiovisuel ? Alors déjà, nous avons trois options qui durent sur les 2 ans. Donc la première option, c'est technicienne d'exploitation. C'est l'option la plus polyvalente où les jeunes vont apprendre donc à installer, régler des caméras, régler des régies, installer tout le matériel. Ils vont avoir une formation aussi un peu de montage, un peu aussi du traitement de son, mais surtout de cette partie audiovisuelle. C'est la formation que je dirais la plus polyvalente et la plus scientifique. Ensuite, il y a une seconde option qui est l'option son. Alors là, attention, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui viennent en disant on va être en studio, on va faire de la musique, pas du tout, non. C'est vraiment l'enregistrement du son, la gestion du son, la sonorisation aussi, parce que ça peut être autant de travail en studio que le travail dans une salle de concert pour gérer donc tout ce qui est le son dans une salle de concert. Et donc là, ça va être cette partie-là. Et ensuite, on a montage et post-production. Alors là, c'est la formation la moins scientifique, avec ma petite expérience, que j'estimerais être la plus artistique, c'est-à-dire les monteurs. C'est-à-dire ceux qui vont récupérer tous les rushs, tout ce qui a été enregistré, et qui, comme des magiciens, vont faire quelque chose avec 80 heures d'enregistrement, vont donner une demi-heure de documentaire. Et là, c'est fabuleux, c'est vraiment des artistes. Donc ça, voilà. Mais tous, quand même, il faut bien savoir que c'est une formation technique. C'est-à-dire que tous vont faire de la physique avec des choses comme du traitement du signal, des filtres, et de l'optique, bien sûr, la colorimétrie.
Oui, bien sûr, la lumière.
Il faut de tout ça, voilà. Ça reste quand même, une formation scientifique.
Hein.
De l'électricité
et
aussi.
Oui, pour ceux qui aiment ça.
Pour ceux qui aiment ça, oui. Alors, les soins, ils n'ont pas trop le choix. Ils les exploitent, d'ailleurs. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand on installe une régie, il faut de la puissance, il faut savoir si ça correspond. Il y a toute cette partie électrique sur le son, bien sûr, et les adaptations avec les...
Il faut passer l'habilitation, c'est partie de la formation.
Il passe l'habilitation, effectivement. On a un enseignant qui est spécialisé là-dessus, qui leur fait passer l'habilitation électrique, parce que quand ils arrivent pour installer une scène à un moment ou à un autre, il y a des hautes tensions, hein. On peut avoir du 230 volts, peut-être du triphasé, donc il faut quand même il faut être conscient des risques au niveau électrique, bien entendu.
Moi je pense que ça va donner envie à certaines personnes qui connaissaient pas, ils se disent il y a quelque chose d'aussi pointu technique dans l'audiovisuel pas très loin d'ici, pas obligé de partir de l'autre côté de la France. Je pense qu'il y a des gens qui doivent découvrir tout ça. Oui, donc alors, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein, on a quand même dit à une 2000. Voilà, donc là, c'est quand même pas évident. Alors moi, j'ai déjà fait, comme je disais, les portes ouvertes. Je sais que c'est quand même un moment privilégié, ça vaut le coup d'y aller. Puis de se présenter, parce qu'après, on peut discuter avec des enseignants en disant, ben voilà, moi, ça m'intéresse, parce que je veux faire ça, je veux faire ça. Parce qu'il faut les choisir, les candidats, dans 2000...
Ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Quand on reçoit 2000 candidatures, moi, je vois cette année encore, c'est de longues discussions parce qu'en fait, il y a de très, très bons dossiers. Mm-hmm. Il y a de la France entière. Mm-hmm. C'est un BTS qui est très attractif. Il y en a beaucoup qui viennent de même de loin pour les portes ouvertes. Effectivement, on fait les portes ouvertes à janvier. Alors maintenant, c'est ouais. passé. Mais pour l'année prochaine, déjà, vous pouvez prendre rendez-vous. Ça dure toute la journée où on fait visiter. Ben, parce qu'en fait, le bâtiment est constitué vraiment comme une chaîne télé. C'est-à-dire qu'au sous-sol, nous avons... les studios d'enregistrement. Vous avez aussi des studios avec fond vert, comme dans des chaînes télé. Ensuite, on a les cabines de montage, les cabines de traitement du son, de captation du son. Voilà, on fait visiter, on discute avec les étudiants pour voir si vraiment cette formation correspond à leur projet aussi. Parce qu'en fait, il faut aussi qu'ils sachent que c'est un bac plus 2 donc, d'audiovisuel. Il y en a certains, justement, comme je disais tout à l'heure, qui croient qu'ils vont faire de la musique. Mais pas du tout. En fait, ils vont gérer ceux qui font de la musique. Ça, c'est autre chose. Comme de l'audiovisuel. Ils vont filmer, mais ils vont pas faire les acteurs, des choses comme ça, quoi. Donc il y a toute cette partie là qui fait que il faut que les jeunes soient conscients de la formation qui les attend. Mais après, bon, d'une manière générale, très très générale, je dirais même, ils sont tous très très heureux d'être là dans une très belle ambiance. On leur fait faire plein de projets dont on pourra parler, ce qui fait que bon, il y a pas de, c'est avec plaisir, quoi.
Alors c'est une formation très professionnalisante, hein, c'est-à-dire vraiment il y a une adéquation directe entre la formation et un emploi éventuel. Je ne connais pas les chiffres, mais de le taux d'embauche à la sortie du BTS au bout d'un an, je ne sais pas quoi, vous avez une petite idée de ce que ça peut représenter ?
Alors c'est assez spécial. Vous savez qu'au niveau professionnel, c'est assez spécial parce que moi j'ai enseigné avant dans un BTS électronique et informatique où les étudiants à la suite du BTS poursuivaient pour la plupart les études, soit en licence pro, soit en école d'ingénieur ou dans d'autres écoles, voilà, l'université. Là, c'est alors qu'on a des élèves qui sont tout aussi brillants, qui pourraient très bien poursuivre dans une autre filière, dans des écoles d'ingénieur, mais là, c'est pas l'objectif. En fait, ce qu'ils veulent, c'est aller sur le marché du travail, c'est aller dans la vraie vie, quoi. Et sauf que bon, c'est assez difficile d'avoir un taux d'employabilité à la fin de BTS parce que beaucoup ensuite rentrent en tant que intérimaire, soit intermittent du spectacle, et ce qui fait que c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qui définit le taux d'employabilité à la suite de ce BTS ? C'est assez compliqué. Ce que l'on sait, c'est que pour la plupart, ils trouvent du travail. Alors, bien sûr, c'est pas du travail qu'on trouvera obligatoirement sur la région Aquitaine,
évident,
ou du moins dans le sud Aquitaine. Il y en a pas mal qui partent sur les grosses agglomérations, Bordeaux, Toulouse, et bien sûr, beaucoup qui partent se faire un peu le CV. Sur Paris, et se faire l'expérience sur Paris, parce que c'est là quand même, c'est le centre.
Et oui, c'est vrai que là, ça peut être Canal Plus, M6, France 3, Région, privé, public, il y a de tout, en fait.
Voilà, c'est ça. Plus, bon, toutes les chaînes maintenant qui sont sur la TNT, il y en a pas mal aussi qui vont à BFM, qui vont donc sur les groupes de médias de sport, des choses comme ça. Ce qui fait que... et après, bon, ils redescendent, ou même il y en a certains ensuite qui sont à cheval. J'en connais, mais c'est un parent d'élève, mais qui était aussi donc étudiant chez nous, qui est à cheval sur le Pays Basque et sur la région parisienne Canal+. Donc effectivement, on a ces allers-retours, oui.
C'est vrai qu'en tant qu'intermittent aussi, hein, voilà, on bouge beaucoup. Hein, ça peut être lassant des fois. Hein, y en a qui préfèrent avoir cette liberté, cette manière de fonctionner. On reçoit des artistes ici des fois, que ce soit des comédiens, des metteurs en scène ou des musiciens. Hein, c'est un statut que pas mal d'artistes utilisent. Mais il est particulier. Voilà, c'est pas la sécurité tranquille pépère d'un CDI.
Ça dépend. Il y en a certains qui veulent le côté aventure d'intermittent, c'est-à-dire pouvoir choisir les contrats, pouvoir aller je connais une jeune fille qui fait du montage, qui a réintégré une équipe, qui fait des clips vidéo, des films, elle va à droite à gauche, mais en tant qu'intermittente. D'autres, au bout d'un certain temps, vont choisir un peu la stabilité, c'est-à-dire ils vont rentrer dans une chaîne télé, ou dans une radio, ou dans une boîte d'audiovisuel. Voilà, c'est un choix. Mais c'est vrai qu'au début, ils ont plutôt envie de bouger, c'est très bien. Mais au bout d'un certain temps, certains, effectivement, souhaitent, préfèrent un peu se stabiliser, parce que c'est vrai, pour la vie de famille, des fois, ça peut être plus simple aussi.
Ouais, peut-être pour les crédits aussi, des fois.
Ouais, oui, oui, quand il faut faire un emprunt. Quand il faut faire un emprunt, ouais, effectivement, voilà. Si on a un CDI, ça marche un peu mieux.
Intermittent égale instable, hein, dans les oreilles des gens, forcément. Donc, voilà.
Voilà, c'est ça, oui. C'est une vie, ouais, c'est une vie qui peut être un peu plus compliquée, mais bon, on voit les jeunes et quand même, ils sont épanouis.
Hein. Ben, bien sûr. Bon, et c'est le moment de faire une deuxième pause. On va écouter un petit peu de musique et le flash info local. Et on se retrouve ensuite après ça. Voilà, de retour. Ah ben, c'était Richard Gauthener. Alors, il n'a pas fait les BTS de Biarritz, mais il a quand même pas mal travaillé à la télé. Il a fait effectivement beaucoup, beaucoup de musique de publicité. Hein. Bon, il n'en fait plus maintenant, je crois, mais c'est vrai qu'il a eu une carrière remarquable dans ce domaine.
Ah oui, dans les années 80, effectivement, on voyait beaucoup de pubs qui étaient faites par Gauthener avec son style bien, bien particulier. Quoi. Ouais, on a pu l'écouter sous cette chanson, d'ailleurs.
Ben oui, voilà, c'est ça.
Mais oui, franchement, c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un de remarquable au niveau créativité, clairement.
Voilà. Oui, alors donc on a énuméré un petit peu les formations des BTS avec les différentes options, mais il y a aussi une licence pro, hein, faut le dire aussi, parce que tout à l'heure vous disiez qu'après le BTS, la plupart des gens, ils aimaient bien dans leur esprit partir direct dans le monde du travail, puisqu'ils avaient une formation professionnalisante, hein, mais il y a aussi des gens qui remplissent pour, c'est quoi, pour 2 ans de plus ?
Un an de plus. Alors de effectivement, plus, oui, il y en a quand même quelques-uns effectivement qui continuent les études. Mmh. Déjà, bon, il y en a, ils peuvent faire cette formation aussi en alternance, le BTS. Donc, il y a le GRETA CFA propose de faire cette formation en alternance pour les techniciens d'exploitation et pour ceux qui sont les monteurs post-production. Mmh. Et certains ensuite continuent sur une troisième année en alternance, donc c'est une licence WAM qui est faite en partenariat, donc c'est en partenariat avec l'UPPA, donc l'Université pour le Pays de la Dour, et plus particulièrement son antenne donc à Anglet, l'IUT. Et où ils travaillent sur le workflow, sur la gestion des médias, sur toutes ces choses-là. Et certains dont essaient de décrocher aussi une forme de Graal, c'est-à-dire de rentrer à l'école de l'INA, où on a quelques-uns qui rentrent tous les ans. C'est à Paris, où c'est vraiment c'est le sein du sein. Et c'est un bel objectif qu'ils atteignent, parce que la formation, ils sont sérieux, ils jouent le jeu, ils l'atteignent pour certains.
Ouais, c'est vrai que l'IDA, c'est un bel institut, hein, qui, comment dire, c'est quelque part une sorte de musée, un petit peu, un musée multimédia de l'audiovisuel, du cinéma, etc., depuis il y a longtemps, mais aussi, il y a des formations super pointues, les gens, ils apprennent à restaurer des enregistrements, des films, voilà, et d'ailleurs, sur Internet, de temps en temps, on voit des vidéos dans les réseaux sociaux. Moi-même, ça m'est arrivé d'en utiliser des enregistrements que j'ai diffusés. C'est toujours un peu émouvant de retrouver. Ben, c'est fait partie du patrimoine aussi, en fin de compte.
Oui, on retrouve de vieux films et tout ça. C'est vrai que ça fait partie du patrimoine. Ils font partie aussi de la sauvegarde culturelle, finalement.
Oui, oui.
C'est aussi qui est très important.
Ouais, c'est ça.
Et,
ouais.
Parce que, bon, surtout à la vitesse, souvent, la gestion des médias. Ou à la gestion des médias, c'est-à-dire que bon, à l'époque c'était les films, ensuite c'est devenu les CD, les cassettes vidéo, ensuite les CD, les choses comme ça. Tout ça, ça n'a pas une durée de vie obligatoirement très longue, surtout maintenant où on est sur du pur numérique, c'est-à-dire que la question se pose aussi de
c'est encore plus volatile le numérique.
Voilà, c'est ça. Quelle est la manière la plus pérenne de garder donc des supports multimédia, sachant que dans 100 ans par exemple, dans un siècle, c'est bien de les avoir, mais il faudra aussi avoir les lecteurs pour les lire, les choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est un boulot qui est énorme au niveau transcodage.
C'est vrai. On a parlé d'alternance. Hein, je prends l'exemple post-prod où il n'y a vraiment que 4 places en alternance. C'est pas beaucoup. C'est vraiment là, il faut vraiment avoir de la chance. Mais ça veut dire que pendant 2 ans, on travaille à moitié, par exemple, à France 3. Et le reste du temps au BTS. Et donc là, c'est la ligne la plus droite pour le travail, ça.
C'est la ligne la plus droite, mais pas obligatoirement la plus simple. Alors, il y en a certains, ils ont, dès après le bac, qui veulent être à l'entreprise, ils veulent être au contact de la profession. Mais c'est pas obligatoirement la chose la plus simple, parce que le diplôme est le même. C'est-à-dire que ça reste le BTS audiovisuel avec les mêmes prérequis, mais aussi les mêmes épreuves au final. Ce qui fait que, les jeunes qui sont en alternance, quand même, doivent bien, il faut avoir conscience en alternance qu'on doit cumuler à la fois, les apprentissages
et
la vie en entreprise. les congés qui sont les congés de l'entreprise. Donc, on n'est plus du tout sur le même système. Alors, certains ont besoin de ça, mais il faut être conscient. Et bon, en ont besoin parce qu'ils ont besoin de, de vivre en entreprise. Mmh. Au besoin, malheureusement aussi, ça peut être financier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire autrement que d'être en alternance.
Parce qu'on est salarié quand on est...
Voilà, c'est ça. Alternance. Ils ont le statut de salarié, oui. Mmh. Et d'où les congés, bon, les congés réduits. Et mais par contre, voilà, c'est quand même difficile parce qu'il faut mener de front la vie à l'entreprise ainsi que ben, l'assimilation de tout ce qui doit être appris et intégré pendant la formation.
Mmh. Et oui, surtout que bon, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant l'alternance, parce que je crois que ça a changé. J'en ai discuté avec plein d'invités, ça, à une époque, c'était un peu open bar. Et puis maintenant, je crois que les alternants ont beaucoup plus de mal à trouver des stages.
Il y a eu de pas mal, à la suite du Covid, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'aides qui avaient été mises en place pour créer de l'alternance. Mmh. Alors, toujours pareil, hein, on parle souvent du système allemand où c'est le double système, où vous avez beaucoup de formations qui sont en alternance et c'est intéressant parce que les jeunes, de suite, sont opérationnels quand ils arrivent à l'entreprise parce qu'ils sont déjà dans l'entreprise.
Ben oui, c'est ça.
Et il y avait beaucoup d'aides au niveau entreprise qui avaient été mises en place par l'État. Ces aides ont été réduites. Malgré tout, c'est quand même, on a eu quand même, l'alternance s'est lancée en France sur le supérieur parce qu'elle existait depuis longtemps, mais plutôt sur les formations professionnelles avant le bac.
Ah oui, c'est ça. Alors que la nouveauté, CAP, c'est ça. Ou des boulangers, des trucs comme
voilà,
ça.
C'est voilà, c'est ça.
Des petits CAP, alors,
ce qu'on appelait les apprentis.
Ouais,
parce que les apprentis, souvent, on avait en tête les artisans, comme vous dites, dans les boulangeries, dans la mécanique, des choses comme ça. Alors que maintenant, voilà, on peut très bien être ingénieur en apprentissage.
Oui, tout à
ça,
fait.
C'est ce qui s'est développé en France, qui existait déjà dans d'autres pays, mais pas encore en France. Ouais.
Alors, donc, il y a aussi des projets en cours de formation, parce que ça, c'est sympa. Encore une fois, là, on est vraiment dans du concret. Hein, donc, c'est un BTS professionnalisant. On ne fait pas que de la théorie. Hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Hein, et les stages, ça, c'est quand même un truc qui permet voilà, des projets. Voilà, ça permet de monopoliser les ressources, d'envoyer les gens collaborent. Ils sont déjà au travail quand on est sur un projet. Ils apprennent à coordonner les choses, à s'entendre ensemble, à faire voir plusieurs corps de métier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme projet qu'on peut voir chez vous ?
Alors, ça c'est le gros morceau, en fait, les projets, parce qu'on associe différentes options, c'est-à-dire qu'on a les sons, on a les monteurs, on a les exploits, et très rapidement, on leur fait faire, par exemple, des journaux télévisés. Alors, un journal télévisé, ben, nous, on le voit, on est habitué à le voir, mais on ne se rend pas du tout compte de la difficulté qui est derrière.
Oui.
C'est-à-dire que moi, quand je suis à la France Télévisions, j'ai vu ça, mais j'étais épaté en disant, mais c'est extrêmement stressant, parce que voilà, il y a un timing à respecter, il faut envoyer les documentaires, quoi, les sujets, il faut, voilà, les inviter en respectant ce timing, et on ne se rend pas compte que ça recommence tous les jours en plus. Du coup, les jeunes, on les prépare à ça. Ils font plusieurs journaux télévisés pendant les 2 ans de formation où ils préparent ça pendant un jour avant. Ils installent la régie, ils préparent les sujets, ils préparent donc la timeline, comment ça va se dérouler. Et ensuite, on fait le direct qu'on diffuse sur YouTube. Et là, c'est vrai que c'est chaque fois très, très. C'est assez tendu. C'est quand même très stressant pour les jeunes, pour le prof aussi. Mais d'autre côté, voilà, ça les prépare vraiment à ce qui les attend dans le milieu professionnel. Et c'est ceux qui vont voir ensuite un stage. Parce qu'en fait, un stage, ils y partent dès la première année. Ils partent au mois de juin. On a qui partent maintenant. Et ils y partent ensuite en seconde année. Alors ça, c'est le premier projet, les JT. Ensuite, on a un second projet. Alors là, ça, c'est les 6 heures. Ça, c'est réservé aux deuxième année.
Direct de 6 heures, c'est gros, ça.
Avant, c'était, je crois, il y a bien longtemps, je crois que c'était 12 heures. Ça a été réduit à 8, maintenant c'est 6.
Ah, ouais.
Mais déjà 6 heures de direct, franchement, c'est... Bon, on a deux studios audiovisuels. Donc là aussi, certains sujets sont préparés à l'avance. Mais c'est 6 heures avec quoi ? Ben, avec des jeux, avec des interviews, avec des journaux télévisés. Tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ben, on ne fait pas plusieurs prises. C'est du direct. Et ça, c'est... on fait souvent ça en décembre. Et c'est vraiment un événement extraordinaire parce que c'est une grosse préparation sur une semaine. Les jeunes sont vraiment se comportent comme des pros. Les profs sont aussi un support, bien entendu. Mais ils font ça au bout d'un an de formation, après leur premier long stage où ils connaissent déjà bien le matériel d'établissement, mais ils connaissent aussi le principe du direct. C'est un bel événement. Ouais, ça c'est le. Et cette année, on a fait un autre événement. C'était 24 heures. On n'a pas fait pas 24 heures. C'était un établissement, une université anglaise qui a lancé un 24 heures de direct où selon les fuseaux horaires, c'était certains établissements qui diffusaient. Donc nous, on a eu une heure sur ces 24 heures où on a fait la météo locale avec une petite innovation, on avait fait de la réalité augmentée. Ensuite, on a fait des jeux, des interviews, on a parlé de surf, bien entendu, on est à Biarritz. Voilà. Et voilà, ces différents projets sur lesquels les jeunes sont très très investis parce qu'ils sont relativement autonomes.
Ouais, très bien, on va déjà faire notre dernière pause, on aura encore des choses à raconter, notamment les débouchés, où ils sont, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, où est-ce qu'ils vont pouvoir travailler. Et puis on se retrouve après cette dernière pause, à tout de suite. Là, c'est la dernière partie de cette émission, mais on a encore des choses à raconter. Alors on parlait de tous ces projets, etc., le côté professionnalisant. Du coup, il y a des enseignants, des formateurs, etc., mais il y a aussi des fois des intervenants extérieurs qui sont dans le métier vraiment, qui viennent.
C'est un peu la grosse différence par rapport au BTS dans lequel j'étais précédemment. Effectivement, c'est qu'il y a des intervenants qui sont, il y a du financement pour faire venir des intervenants qui vont, par exemple, quand on fait un direct, quand on fait un JT ou quand on fait un 6 heures, qui vont aider donc, ou qui vont chapeauter ou même voire parrainer les jeunes pour qu'ils soient vraiment dans un milieu professionnel. Et qui viennent des grandes chaînes, des professionnels, qui certains interviennent même sur les JO ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça donne aussi, ça donne du crédit finalement aux étudiants qui se retrouvent avec des vrais pros qui vont par la suite côtoyer une entreprise ou lors des stages. Et pour nous aussi, ça nous permet de rester en contact en permanence avec le milieu de l'entreprise parce qu'on est quand même, on a une formation professionnalisante, comme vous l'avez dit. Et le but, c'est que les jeunes donc, soient en permanence donc, au contact des technologies émergentes, comme de ce qui se fait en termes de matériel, des choses comme ça, quoi. Et c'est une chance d'avoir ces intervenants. Alors, bien sûr, il y en a souvent qui sont des intervenants, qui sont des anciens étudiants de cette formation.
Oui, forcément.
Qu'on prend toujours plaisir à revoir. C'est vrai qu'il y a aussi ce lien qui est resté, bien sûr.
On a parlé tout à l'heure de la spécificité de la technicité de cette formation, du prix très particulier quand même de tout ce matériel. En termes de budget, les partenariats, on a parlé tout à l'heure de la région, et comment on finance ça? Parce que rien qu'en frais de fonctionnement, je ne vais pas vous demander les chiffres, mais par rapport une formation dans le tertiaire de secrétariat, c'est pas le même budget, j'imagine.
Ah non, on n'est pas du tout dans le même budget. En fait, là, on se retrouve, c'est des caméras à plusieurs milliers d'euros, des régies à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Non, ça n'a rien à voir avec d'autres formations, même dans celle que j'étais. En électronique, bon, c'est vrai que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher, et en informatique. Et c'est d'ailleurs un problème. C'est qu'on doit former des étudiants pour qu'ils soient prêts pour être sur le marché du travail. Et du coup, on doit mettre à leur disposition, tout au long de cette formation, du matériel qui correspondent à ce qu'ils vont trouver dans les entreprises.
Et oui.
Qui se matérialise, bien sûr, avec le passage numérique, évolue très, très rapidement. À titre d'exemple, même si c'est un peu, je dis bien un peu dissocié du numérique, c'est au niveau des éclairages. Nous avons des studios donc, où nous avons encore des éclairages à tungstène qui chauffent, donc qui consomment beaucoup d'électricité. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on évite de trop consommer. Du fait qu'ils chauffent, il faut climatiser. Donc, là aussi, on consomme. C'est plus fragile. Ça ne se pilote pas. Pas quoi, ça se pilote de la même manière, mais c'est vrai que ça n'offre pas les mêmes possibilités. Donc, mais là, par exemple, actuellement, la problématique, c'est de changer tous ces éclairages. Et ça va être pas. Donc, on va avoir la même problématique sur les caméras pour passer à UHD ou des choses comme ça, ou même sur les types de connectiques que l'on va mettre sur les caméras, sur les micros. Donc, c'est extrêmement cher. Et là-dessus, bien sûr, on compte beaucoup sur la taxe d'apprentissage, parce que la région, ça reste une collectivité. On sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Le commun des mortels n'a pas envie. Je veux dire, au niveau des impôts, c'est quand même compliqué aussi. Parce que la région, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, on fait beaucoup appel aussi aux entreprises, c'est via la taxe d'apprentissage. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui écoutent, n'hésitez pas à nous contacter.
Bien sûr, voilà. Alors aussi, voilà, dans les, vous avez la chance aussi d'avoir le FIPADOC à Biarritz, qui est quand même un bon galop d'essai pour certains. C'est un bon festival, ça.
Ah, ça, c'est super. Le FIPADOC, donc pendant une semaine de Festival International du Film Documentaire, parce qu'en fait, les jeunes sont au contact des professionnels, des réalisateurs, des producteurs, des techniciens. et ils peuvent assister déjà à toutes les projections, donc ils ont un pass pour assister à toutes les projections. On leur demande aussi de faire des mini-sujets, de faire des interviews, d'aller voir les gens, d'aller au contact des professionnels. Mmh. Et pour eux, c'est vraiment une très grande chance de bénéficier de ce festival sur Biarritz. Et on l'a à côté, ils y vont à pied. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ils voient le rendu, ils voient ce qu'on attend d'eux une fois qu'ils sortiront de la formation, en particulier les monteurs, par exemple, quand on voit un docu. Ou alors les preneurs de son, quand eux-mêmes vont tester ou quand eux-mêmes peuvent analyser parce qu'il y a des prix qui sont remis. Et pour ça, oui, c'est vraiment une chance d'avoir ce festival à côté. Mais il y en a d'autres festivals. Il y a pas mal d'événements quand même sur le Sud-Aquitaine. Et oui. C'est vrai qu'on a cette chance-là.
Oui. Comment dire, le fait aussi que ce soit à Biarritz peut-être attire des gens qui viennent un peu du nord, etc. Ils se disent, ah quand même, je vais faire de la vidéo, je vais faire du son, et en plus, je vais faire du surf dans une ville. C'est quand même ça. Je pense, ça doit faire partie des arguments peut-être, non? Un petit peu.
Oui, quand même. Ouais. Bon, le BTS, le bâtiment, il y a 600 mètres de la plage, de la grande plage.
Voilà.
Mais je suis assez surpris, on n'est pas d'un breakpoint où les élèves arrivent avec leur planche de surf.
Ouais, non.
Ça m'aurait pas surpris. Oui. On n'est pas... Alors il la cache au choix, mais effectivement c'est quand même un environnement qui est extraordinaire. On est au bord de mer, dans une station balnéaire, bon, mais c'est vrai que c'est... Et puis avec une ville qui bouge beaucoup, qui est Biarritz, il y en a qui bougent beaucoup, qui est à côté aussi. Donc pour les jeunes, moi étudiant, franchement j'aurais pris beaucoup de plaisir à étudier ici, ça c'est clair.
J'imagine. Eh bien Laurent, je crois qu'on va en rester là, donc je pense qu'on aura fait un petit tour d'ensemble du sujet et... je pense que ça peut-être faire germer une petite graine dans la tête de certaines personnes qui sont peut-être en première cette année et l'an prochain sont en terminale et dire « Oh, je vais demander le BTS ».
Je peux que les encourager, oui. Mais merci de m'avoir reçu.
Ben avec plaisir, c'est sympa de pouvoir en parler parce que c'est vrai que c'est une formation voilà, qui est quand même son petit niveau, sa petite réputation, c'est bien. Et c'est pas très loin de chez nous parce qu'on est voisins après tout. Voilà, ben merci beaucoup Laurent et bon retour sur la côte. Au revoir.
Allez, au revoir.